Vous écoutez On lit pour vous.
Pour vaincre le stress, un texte d'Yvon Charest, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. On doit l'appellation française du mot stress à Hans Selle, autrichien d'origine qui a créé à Montréal l'Institut international du stress. Le stress est un enjeu à peine centenaire, donc récent dans l'histoire de l'humanité. Et la meilleure façon de le domestiquer, à mon avis, est de revoir comment l'histoire en a été épargnée. J'aime bien la définition suivante de la résilience. Capacité à persévérer et à continuer à lutter à tout moment, en dépit des revers et des obstacles, et des peines. Mais comment peut-on être résilient tout en évitant le stress, en conservant son énergie et en gérant ses espoirs? Ma réponse est d'identifier 6 principes fondamentaux reliés à chaque lettre du mot « stress », question de faciliter la mémorisation. Je vais énoncer puis expliquer les 6 principes. S pour saine gestion de son optimisme. T pour talent, soit de bien se connaître. R pour retrait, soit de décider quand se retirer d'une situation stressante. E pour équilibre dans la gestion du temps. S pour santé physique. S pour subjectivité, car notre jugement peut être biaisé en présence du stress. Abordons d'abord la notion de la saine gestion de son optimisme. On dit que la peur crée des montagnes, tandis que la foi les déplace. Il y a donc de multiples façons de voir la montagne entre les deux extrêmes, que sont la peur et la foi. La vision de chaque personne dépend de la confiance dans ses compétences et de son discours intérieur lors d'événements difficiles. Lorsqu'un malheur menace, l'imagination est souvent occupée à le grossir, à le rendre plus proche et plus effrayant. Le livre de Martin Seligman, Learned Optimism, est l'un des meilleurs ouvrages pour apprivoiser et gérer son discours intérieur. Parlons maintenant de talent, ou plutôt du sentiment d'en manquer à certains moments. Une personne emprisonnée dans la logique de la compétition veut posséder tous les talents et oublie le principe d'Aristote vieux de 2000 ans. Se connaître soi-même est le début de la sagesse. Il nous invite à connaître nos talents pour les utiliser au maximum, mais aussi à reconnaître nos limites et à faire alors appel aux talents d'autrui. Dans un monde aussi complexe, on ne peut réaliser beaucoup de choses seul. Le stress se soucie peu de la façon dont un problème a été réglé. À nous de faire de même. Le troisième principe, celui du retrait, a été popularisé par Henri Laborite et son livre « Éloge de la fuite ». L'idée à retenir est simplement de se rappeler qu'une des options est de se retirer momentanément d'une situation stressante ou qu'il peut finalement être préférable de s'en retirer complètement. Le quatrième principe est celui de l'équilibre. Il s'agit de définir le temps consacré au travail par rapport aux autres aspects de sa vie et d'assumer ses choix. Il s'agit tout autant de définir les responsabilités des conjoints à la maison, ce qui est d'autant plus difficile que la mère vit avec une pression interne beaucoup plus forte que le père concernant la gestion des enfants. Dès 1869, John Stuart Mill écrivait que sans justice à la maison, il n'y aurait pas de justice sociale pour les femmes. Pour atteindre l'équilibre, il est utile d'incorporer dans son horaire une activité de loisir, une activité plaisante et stimulante, où le temps et le stress semblent s'arrêter, où l'on se retrouve dans le flot, selon Mihaly Csikszentmihalyi. Le cinquième principe concerne la santé physique, qui est indissociable de la santé globale, selon l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Les saines habitudes de vie concernant le sommeil, l'alimentation et l'exercice sont des appuis inestimables à la gestion du stress. La subjectivité, le dernier principe, nous rappelle que l'on est quelquefois un mauvais juge dans l'évaluation d'une situation que l'on ressent comme stressante, d'où l'utilité de valider son point de vue avec autrui. L'objectif de ce texte n'est pas de communiquer des nouveautés, puisqu'elles sont rares lorsqu'il est question du développement de la nature humaine, mais d'avoir un outil contre l'oubli disponible dès une première alarme pour pouvoir se prémunir contre les phases subséquentes de résistance et d'épuisement. C'était Pour vaincre le stress, un texte d'Yvon Charest, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
Qu'a-t-on à gagner à travailler du bureau? un texte de Simon Grenier, paru le 26 août 2025 dans La Presse. Le travail hybride ou à distance s'est largement répandu au cours des dernières années. On avance même que pour beaucoup de professions et pour la majorité des entreprises ayant mis ce mode de travail en place, il n'y a pas de retour en arrière possible. Bien que la formule semble attrayante et théoriquement avantageuse, plusieurs questions demeurent quant à son impact sur le fonctionnement des travailleurs et des entreprises. On pouvait récemment lire un article d'Hélène Barry qui relatait certains défis et iniquités posées par le télétravail 1. On y comprend les avantages du télétravail pour ceux et celles qui en bénéficient. Pourtant, on constate aussi une pression de certaines organisations à tenter de réduire le nombre de jours de télétravail possible. Le travail hybride comporte des avantages pour les organisations et les travailleurs. Dans le domaine de l'innovation et de la technologie, une étude réalisée en Chine à la fin de la pandémie a attribué un groupe de travailleurs au télétravail alors qu'un autre groupe devait accomplir ses tâches à partir du bureau. En comparant les deux groupes à 6 mois d'intervalle, les résultats soutiennent que le groupe en télétravail montrait un taux de satisfaction en emploi plus élevé et un moins grand nombre de départs de l'entreprise. Ces gains s'appliquaient davantage à certains types de travailleurs, notamment ceux n'occupant pas un rôle de gestionnaire, les femmes et les travailleurs voyageant plusieurs heures par semaine pour se déplacer au bureau. Plusieurs organisations avec lesquelles nous collaborons au programme de doctorat en psychologie du travail à l'Université de Montréal nous font part d'observations similaires sur la réalité du télétravail. Zone grise du travail hybride. Pendant la pandémie, les données de recherche soulignaient une relation positive entre le télétravail et le bien-être des employés. Il est vrai que de pouvoir travailler de chez soi sans courir le risque de tomber malade ou de contracter un virus inconnu permettait sans doute de se sentir plus en sécurité. Par contre, à l'été 2025, j'ai pu assister à un congrès où des résultats préliminaires d'études révélaient plutôt des relations négatives entre le télétravail et le bien-être. Une fois la menace passée et le télétravail bien installé dans la façon de faire, on doit se demander quels seront les impacts de ce mode de travail sur le fonctionnement psychologique des travailleurs. Des auteurs suggèrent que le télétravail pourrait causer un sentiment d'isolement chez certaines personnes. D'autres écrits avancent que ce mode de travail pourrait mieux convenir à des personnes au profil plus introverti ou en plus grande recherche d'autonomie au travail. Bref, il semble que nous ayons besoin de rester attentifs aux effets du télétravail sur la santé psychologique des travailleurs afin d'aménager ce nouveau mode de travail en évitant de nuire à ceux et celles qui en bénéficient. Par exemple, est-il nécessaire d'enchaîner les réunions à l'agenda d'un employé jusqu'à proposer des rencontres pendant les heures de dîner? Comment peut-on inciter certains employés à travailler un nombre d'heures raisonnable, même s'ils et elles peuvent tout effectuer de chez eux? Ainsi, il faut continuer à y réfléchir et à documenter ce phénomène. Les gains de la présence au bureau. Face à ses connaissances en évolution et à la diversité des croyances de tout un chacun, on peut se demander ce qu'on peut gagner à aller au bureau. Une récente étude lève le voile sur une partie de la question. En effet, une équipe de recherche a demandé à 206 télétravailleurs de répondre à un questionnaire quotidien sur une période de 10 jours. Les résultats de l'étude montrent que la communication physique au bureau permet aux participants de percevoir un plus grand soutien social et contribue ainsi à satisfaire le besoin psychologique d'appartenance sociale, une réponse au sentiment d'isolement de certains. Par ailleurs, ce même mode de communication tend à faciliter la clarification des rôles et de ce qui est attendu des travailleurs, ce qui permet de satisfaire leurs besoins de compétences. Considérant que ces deux besoins sont fondamentaux pour s'épanouir au travail, il semble souhaitable de favoriser une certaine présence physique au bureau. Il faudra toutefois s'assurer de bien aménager le travail pour que les travailleurs voient une valeur ajoutée à leur présence au bureau. Je vous laisse donc sur cette question. À quel besoin d'affaires cherche-t-on à répondre en ramenant les employés au bureau? Et est-ce soutenu par une organisation du travail adéquate en présentiel? C'était « Qu'a-t-on à gagner à travailler du bureau? » Un texte de Simon Grenier, paru le 26 août 2025 dans La Presse.
Quatre solutions pour la planète. Un texte de Raphaël de Rome, paru le 16 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Solution 1. Traquer le méthane depuis l'espace. Depuis quelques années, 10 mini-satellites québécois appartenant à l'entreprise montréalaise GHGSat épient les raffineries de pétrole, les mines de charbon et les autres sites industriels du globe à la recherche d'émissions de méthane, un gaz à effet de serre puissant, mais invisible. En orbite à 500 km d'altitude, chaque satellite n'est pas plus gros qu'un four à micro-ondes et possède un capteur hypersensible. Celui-ci mesure les quantités de méthane émises et en détermine la provenance avec une précision de 30 mètres. Aussi bien dire qu'aucune grande installation industrielle ne peut cacher l'ampleur de ces émissions. La NASA et l'Agence spatiale européenne disposaient déjà de grands satellites pouvant mesurer les concentrations atmosphériques de méthane à l'échelle mondiale. Mais notre technologie fut la première à le faire de manière localisée, explique par visioconférence Stéphane Germain, PDG de GHGSat. GHG est l'abréviation de Greenhouse Gases, ou gaz à effet de serre. Ces données constituent une arme précieuse dans la lutte contre les changements climatiques, car si le méthane survit seulement une douzaine d'années dans l'atmosphère, il absorbe 80 fois plus de chaleur que le CO2 au cours d'une même période. Agir sur le méthane permet donc de faire des gains rapides pour ralentir le réchauffement climatique. On gagne ainsi du temps pour déployer certaines solutions plus longues à mettre en place. En 2021, dans le cadre du Global Methane Pledge, plus d'une centaine de pays se sont donnés pour objectif de réduire les émissions de méthane de 30 % d'ici 2030. Pour le climat, mais aussi pour la santé humaine, car le méthane contribue grandement au smog, ce qui entraîne un demi-million de décès prématurés dans le monde annuellement. Des clients industriels, dont plusieurs compagnies pétrolières, achètent les données de GHGSat pour comprendre, contrôler et réduire leurs émissions, mais aussi pour localiser les fuites. Un oléoduc de plusieurs milliers de kilomètres ou même une seule raffinerie, ce sont des milliers de points de fuite potentiels, souligne Stéphane Germain. Impossible de tout surveiller, d'où l'intérêt des satellites. Les gouvernements s'y intéressent aussi pour mieux comprendre ce qui se passe sur leur territoire, par exemple celui du Québec pour connaître les émissions des sites d'enfouissement de déchets. Finalement, les marchés financiers veulent comprendre l'empreinte carbone de leurs investissements. En 2023, Les données de GHGSat ont permis de réduire les émissions de méthane de 6 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui correspond aux émissions annuelles de 1,4 million de voitures. C'est un début. La PME de 150 employés souhaite maintenant lancer d'autres satellites pour pouvoir, d'ici 2030, fournir une mesure quotidienne sur chaque site industriel de la planète. Solution 2. Faire payer pour déboiser. Les arbres en ville offrent de nombreux avantages. Ils diminuent la pollution de l'air, réduisent la chaleur accablante, absorbent les pluies abondantes, préservent la biodiversité et améliorent la santé mentale. Malgré ces bienfaits, et même si le baromètre de l'action climatique indique que 94% de la population québécoise appuie le verdissement, il n'est pas rare de tout raser sur un chantier de construction. Pour préserver et augmenter le couvert végétal sur son territoire, Victoriaville a adopté un règlement unique au Québec. Ainsi, lors de la demande d'un permis de construction, la ville percevra une redevance sur la coupe d'arbres, 25 $ par mètre carré de canopée perdue. Cela incitera les promoteurs à déboiser le moins possible, à contourner les arbres ou encore à regrouper les constructions sur une partie d'un terrain pour préserver une plus grande section boisée. On déterminera la superficie des zones déboisées à partir d'images aériennes. Pour un arbre mature à moyen déploiement dont la ramure fait 8 mètres de diamètre, donc 50 mètres carrés d'ombrage au sol, il en coûterait 1 250 $. La ville a dépensé 75 500 $ pour acquérir les images aériennes. Mais le projet devrait s'autofinancer largement. On prévoit des revenus de 200 000 $ dès la première année. L'argent ira dans un fonds spécial pour planter d'autres arbres et la ville s'engage à agir rapidement pour atteindre un indice de canopée de 30% de son territoire d'ici 2030. Présentement, 23% du territoire est verdi, mais ce taux varie entre 7,7% et 48,5% selon le quartier. Le but premier n'est pas de générer de l'argent, mais d'orienter le comportement des développeurs en faveur du bien commun, explique Diego Kremer, directeur finance et biodiversité à la Société pour la nature et les parcs, ou SNAP Québec. Cet organisme de conservation de la nature a épaulé la municipalité de 48 000 habitants dans la mise au point de son nouveau règlement. Une équipe de recherche de l'École nationale d'administration publique et le Centre québécois du droit de l'environnement ont également participé au projet. Il faut beaucoup de travail pour créer une mesure comme celle-là et s'assurer qu'elle est solide sur le plan juridique, dit Diego Kremer. Il a fallu 2 ans pour peaufiner le concept, mais d'autres municipalités du sud du Québec pourront maintenant s'en inspirer. L'écofiscalité de plus en plus populaire. Le nouveau règlement est un exemple concret d'écofiscalité, une approche que les villes utilisent de plus en plus pour atteindre leurs objectifs écologiques. Au moyen de taxes ou de redevances ciblées, on met un prix sur la pollution ou la destruction de l'environnement. Diverses mesures de ce type existent déjà au provincial et au fédéral. Cependant, elles sont parfois difficiles à vendre et faire comprendre à la population, constate Lynn Latulippe, chercheuse principale à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Au Québec, les promoteurs qui détruisent des milieux humides doivent verser des compensations financières au ministère de l'Environnement. L'argent doit en principe servir à créer ou à restaurer d'autres milieux humides. Mais les projets sont coûteux et complexes à mener, si bien qu'on échoue pour le moment à compenser les superficies détruites et à dépenser les sommes récoltées. Diego Kremer s'attend toutefois à ce que la gestion soit facilitée à Victoriaville, car il s'agit d'un gouvernement de proximité qui gère lui-même les plantations d'arbres sur son territoire. D'abord, les bénéfices seront très visibles pour les citoyens, affirme-t-il. Ensuite, comme ce n'est pas la population qui paiera la redevance, mais les demandeurs de permis, l'acceptabilité sociale du règlement s'en trouvera renforcée. Il faudra d'ailleurs favoriser cette acceptabilité si on veut utiliser plus intensivement des mesures écofiscales, ce qui sera nécessaire pour atteindre nos objectifs environnementaux, écrivaient en substance les experts de la chaire dans un cahier de recherche publié en 2024. Vous écoutez 4 solutions pour la planète, un texte de Raphaël Derome paru le 16 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Solution 3. Fédérer les volontaires pour le climat. La science est claire, les changements climatiques sont essentiellement causés par les énergies fossiles. Il faut donc cesser de les produire et de les utiliser. un groupe de gouvernements ambitieux a choisi de prendre le taureau par les cornes en fondant la Beyond Oil and Gas Alliance, Alliance pour la sortie du pétrole et du gaz. Cette initiative diplomatique, née en 2021, promeut l'abandon progressif de la production de combustion fossile. Elle est présidée par le Danemark et le Québec, à titre de représentants des gouvernements infranationaux, provinces, régions, etc. Rappelons que le Québec avait annoncé en 2021 la fin de toute exploration et exploitation de pétrole ou de gaz sur son territoire. Pourquoi un tel regroupement? Parce que même si les pays se rencontrent déjà à la Conférence des Nations Unies pour le climat et promettent depuis des décennies de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les progrès sont lents. Des pays aux économies et aux niveaux de développement très variés doivent s'entendre, et le processus est entravé par les pressions soutenues de l'industrie fossile. Ainsi, l'accord de Paris, conclu en 2015, ne mentionne rien au sujet de ces énergies. Ce n'est qu'en 2023 qu'on s'est mis d'accord pour accélérer la transition des combustions fossiles vers les énergies renouvelables, mais sans parler explicitement de restreindre ou d'éliminer la production des énergies fossiles. Et comme l'ONU considère que les émissions de combustibles fossiles vendus à l'étranger ne comptent pas dans le bilan du pays exportateur, mais dans celui de l'importateur, de nombreux pays prévoient d'exploiter les combustibles fossiles indéfiniment. La Beyond Oil and Gas Alliance contourne donc l'ONU pour le moment. Comme il est ardu de rallier tout le monde, on commence par une coalition de volontaires, explique Amy Janes Wood, professeure adjointe au département de sciences politiques à l'Université McGill et spécialiste des questions de politique climatique. L'objectif est de créer une pression morale, politique et éventuellement économique sur les pays qui sont plus dépendants de la production de combustibles fossiles. On veut normaliser l'idée que les gouvernements doivent s'engager à sortir de ces énergies. Outre son volet diplomatique, l'Alliance aide aussi financièrement des pays en développement à planifier concrètement cette sortie. Ce n'est pas le seul regroupement du jour. La Powering Past Coal Alliance, Alliance pour la production d'électricité sans charbon, fondée en 2017 par le Royaume-Uni et le Canada, regroupe 180 gouvernements, entreprises et organisations. Ces alliances ne sont pas parfaites. Début février, le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charrette, se disait ouvert à une éventuelle relance de GNL Québec, un projet de gazoduc et d'usine de liquéfaction de gaz naturel rejeté en 2022. Il faut dire que la Beyond Oil and Gas Alliance ne mentionne rien au sujet des infrastructures de transport d'énergie. N'empêche, l'émergence de telles alliances, qui font place à des gouvernements infranationaux, démontre qu'on peut faire avancer les choses en dehors des vieilles institutions. C'est très positif de voir qu'on ne pense plus aux problèmes de la même façon, qu'on s'extirpe de vieilles contraintes, ajoute Mme Janes Wood. Lutte populaire. La pierre angulaire de toutes ces coalitions, c'est la société civile et les campagnes qu'elle mène. Sans elle, les gouvernements n'auraient jamais créé de telles alliances, estime Amy Janes Wood, qui a étudié les mobilisations populaires contre les projets de pipeline ou autres projets d'infrastructure liés à l'énergie fossile au Canada. Elle en a tiré un livre, Mega Pipelines, Mega Resistance, Tar Sands, Social Movements and the Politics of Energy Infrastructure. Même si les opposants ont gagné plusieurs batailles, ils ont l'impression de jouer au tap-taupe. L'industrie fossile dispose de ressources presque illimitées pour proposer de nouveaux projets, épuisant les communautés locales, les groupes autochtones et les environnementalistes dans des luttes sans fin, relève l'experte. Afin d'offrir une opposition plus systématique et non projet par projet, plusieurs de ces groupes militants ont lancé une initiative mondiale, l'appel en faveur d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Cet appel enjoint au gouvernement de négocier un nouveau traité pour compléter l'accord de Paris, qui interdirait tout nouveau projet de combustible fossile et planifierait de manière équitable la réduction progressive de la production existante. Parmi les signataires, gouvernements locaux et nationaux, entreprises, syndicats, groupes environnementaux, universitaires, leaders religieux, artistes et simples citoyens. Au Québec, les villes de Gatineau, de Varennes et de Montréal, de même que la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, l'ont notamment signé. Solution 4, protéger le territoire. La conservation de la nature, ça marche. C'est ce qu'indique la plus grande étude menée sur le sujet, publiée en avril 2024 dans la revue Science. Une équipe internationale de 33 scientifiques a compilé les résultats de 186 études portant sur 665 projets de conservation. Création d'aires protégées, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, restauration d'écosystèmes, etc. Certains projets remontaient au 19e siècle. Le verdict? 2 fois sur 3, les projets donnent des succès concrets. Soit on améliore l'état de la biodiversité, soit on ralentit son déclin de façon importante. Il arrive aussi qu'on échoue à rétablir l'espèce désirée, mais que les efforts bénéficient à d'autres espèces. Enfin, les projets les plus récents semblaient produire de meilleurs résultats, ce qui montre, disent les signataires, qu'on gagne en expérience. Au Canada, une étude publiée en janvier 2025 dans la revue scientifique Facette montre que la conservation fonctionne quand on s'attaque aux causes spécifiques du déclin d'une espèce. Ainsi, les baleines à bosse ont pu prospérer grâce à la protection de leurs aires de reproduction et à l'interdiction de la chasse. Le faucon pèlerin s'est rétabli grâce à des programmes de réintroduction et à l'interdiction de l'insecticide DDT qui fragilisait la coquille de ses œufs. Toutefois, nuancent les signataires de l'étude, les menaces qui pèsent actuellement sur les espèces vivantes sont souvent diffuses ou plus complexes à juguler. Perte et dégradation de l'habitat, changement climatique, etc. D'où l'importance de redoubler d'efforts. Et la base, c'est de protéger les espaces naturels. La cible internationale, sur laquelle se sont entendus les pays lors de la conférence de Kunming-Montréal en 2022, est de protéger 30 % des terres et des océans de la planète d'ici 2030. Pour l'instant, 16 % des zones terrestres et 8 % des zones marines sont sous sa protection, selon le site officiel Protected Planet. En 2024, le gouvernement du Québec a annoncé son plan Nature 2030 qui vise à conserver la biodiversité et à favoriser l'accès à la nature, notamment en impliquant les Premières Nations et les Inuits. Un appel à tous a été lancé et 320 projets d'aires protégées sont examinés par le ministère de l'Environnement. Notons enfin que des aires protégées peuvent être établies sur des terres privées. De plus en plus de propriétaires s'engagent à protéger leurs terres ou à la céder à des organismes de conservation locaux. Des actes notariés garantissent que le territoire conservera son caractère naturel à perpétuité. Cette approche de conservation volontaire est d'ailleurs une des voies privilégiées pour atteindre les objectifs de conservation dans le sud du Québec. En effet, c'est là que la diversité biologique est la plus grande et la plus affectée par les activités humaines, alors que cette région est la plus difficile à protéger, car presque tout le territoire y est privé. C'était « 4 solutions pour la planète », un texte de Raphaël Derome, paru le 16 avril 2025 dans le magazine « Québec Science ».